Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous jouerons les prolongations après la victoire hier du Sénégal, 2-1 face à la Pologne. Première victoire d'une équipe africaine dans ce mondial 2018, après, malheureusement pour les Africains, les défaites du Nigeria, du Maroc et de la Tunisie. L'Égypte, quant à elle, est quasiment éliminée. Alors faut-il s'inquiéter pour les sélections africaines? Y aura-t-il au moins une équipe africaine en huitième de finale? Vos pronostics nous intéresse, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 et comme toutes les équipes, toutes les nations ont déjà joué au moins une fois, nous en profiterons tout à l'heure pour dresser un premier bilan de cette Coupe du Monde de football et on reviendra évidemment sur les débuts poussifs des grands favoris, je pense notamment à l'Allemagne, au Brésil mais aussi à la France. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI, vous nous appelez et nous répondons à toutes vos questions pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité. Nous allons d'abord nous intéresser à l'avenir du processus de paix en Colombie. À petit, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous êtes à Lomé, au Togo. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. En Colombie, les premières élections présidentielles après l'accord de paix avec la guérilla des FARC viennent de porter au pouvoir le candidat de la droite du Iván Duque, un farouche opposant à cet accord. Iván Duque, qui n'a cessé de dénoncer l'accord de paix avec les FARC, a annoncé qu'il y apporterait des corrections. Ma question, en quoi consisteraient ces corrections et pourraient-elles comporter des menaces pour la paix en Colombie?
Alors c'est vrai que le nouveau président colombien promet de réviser l'accord de paix conclu il y a maintenant 2 ans entre l'État colombien et les FARC. C'est d'ailleurs l'une de ses principales promesses de campagne. Bonjour Asbel López.
Bonjour Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction Amérique latine de RFI. Alors d'abord, précisons aux auditeurs qu'il ne s'agit pas de remettre à plat tout l'accord. Il s'agit vraiment d'apporter quelques modifications. Et pour bien comprendre l'état d'esprit du nouveau président, Iván Duque, il faut quand même souligner que cet homme doit son élection au soutien d'Álvaro Uribe.
En effet, c'est Álvaro Uribe, ex-président colombien, fondateur du Centro Democrático, le parti de Duque, et qui a été le mentor de Duque, donc. Et c'est lui Uribe est accusé d'entretenir des liens avec des groupes paramilitaires et des narcos. Et Uribe est le plus farouche opposant à l'accord de paix. Et certains au sein de ce parti voulaient déchiqueter carrément l'accord de paix. Or, comme vous l'avez dit, Duque a proposé plutôt de le réviser. Un exemple, Duque s'est montré disposé à respecter l'accord pour la réinsertion sociale et économique des guérilleros de base. Cette position lui a permis de ne pas rejoindre les plus extrémistes de son parti et en même temps montrer son refus des termes d'un accord de paix de plus en plus critiqué en Colombie. Car même si la violence est réduite de manière significative, une partie de l'opinion estime que Santos a trop cédé aux FARC. Le coup de la paix est aussi l'impunité pour les ex-chefs de la guérilla. En plus, fin 2016, Santos a perdu le référendum censé légitimer l'accord de paix. Le non s'est imposé. Or, pour les opposants aux accords, Santos n'a pas tenu vraiment compte du résultat. Le hizo conejo. Le non des urnes est devenu, selon eux, un oui après quelques modifications de l'accord à la marge. Cet échec à freiner l'élan du processus de paix. Mais revenons à la question de votre auditeur à Lomé sur les corrections à l'accord de paix. Duque n'a pas donné de détails. Il est resté vague sur ce propos. Ce que l'on sait, c'est qu'il a assuré pendant la campagne que les ex-chefs de la guérilla, accusés de crimes graves, allaient payer un minimum de prison.
Oui, puisque pour l'instant, ils bénéficient comme d'une sorte d'amnistie. Ils ne vont pas en prison à condition qu'ils dédommagent les victimes et qu'ils fassent des peines, on va dire, un peu alternatives. Donc, sur ce point-là, le nouveau président veut mettre fin, il veut une justice plus stricte.
En effet, en plus, il voudrait aussi qu'il soit interdit de siéger au Parlement. Il a promis aussi des sanctions plus sévères pour les crimes de guerre des FARC. Et il a promis aussi de renforcer les droits des victimes et que les indemnisations promises soient tenues.
Oui, puisque Duque estime que les droits des victimes ne sont pas suffisamment pris en compte dans cet accord de paix. Appetit nous demandait également si ces corrections représentent une menace pour la paix en Colombie.
Disons que, d'une part, ces promesses électorales devraient rencontrer une forte opposition au Parlement et à l'accord constitutionnel. Selon le président Santos, l'accord de paix a été balisé par la Constitution pendant plusieurs années. Ceci est vrai, mais il y a aussi le risque que le nouveau président laisse traîner les choses ou qu'il mette des bâtons dans les rues. Par exemple, sur la mise en place de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Justice Spéciale pour la Paix, la justice transitionnelle dans le cadre du processus de paix. Cela étant dit, un retour à la violence est peu probable. La violence n'a d'ailleurs pas complètement disparu. Des dizaines de leaders sociaux ont été assassinés. Il y a toujours un autre groupe de guérilla, le ELN, et puis aussi des groupes dissidents des FARC. Certains craignent l'augmentation de ces groupes dissidents sur qui aurait un impact sur la sécurité.
À suivre donc. À petit, a-t-on répondu à vos deux questions ?
Très bien, Juan.
Eh bien, bonne journée à Lomé et merci de nous avoir appelés. Un grand merci à Asbel Lopez de la rédaction Amérique latine de RFI. Abla Jounaïdi, journaliste au service Écho, nous rejoint à l'instant. Bonjour Abla.
Bonjour.
Des questions, et elles sont récurrentes ces questions concernant le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine. Visiblement, ce feuilleton qui n'en finit pas intéresse nos auditeurs, tant mieux. Ignace, bonjour.
Bonjour Yuan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bien, merci beaucoup. Dans leur effort de réduction du déficit commercial, les États-Unis s'isolent davantage en décidant de taxer les importations chinoises. Mmh. Comment se fait-il que les négociations n'est pas abouti, alors que la Chine avait donné certaines garanties.
Alors, Abla Jounaïdi, effectivement, Ignace a raison, et si ma mémoire est bonne, j'avais comme l'impression, il y a quelques semaines, que les deux premières économies mondiales étaient parvenues à conclure une sorte d'armistice, et puis, vendredi dernier, voilà que Donald Trump dégaine et relance les hostilités commerciales.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu au moins 3 rounds de négociations entre les représentants américains et chinois pour s'entendre, justement, sur un accord et éviter la guerre commerciale. Et les Chinois, effectivement, ont fait un geste en disant qu'ils importeraient plus, davantage de produits américains. Et... Sauf que Donald Trump n'est pas d'accord avec ça. Et oui, il estime que, en fait, l'essentiel n'est pas réglé. Et l'essentiel, c'est la politique chinoise qui... Alors, c'est un grand plan qui s'appelle Made in China 2025 et qui consiste à produire un ensemble de produits qui sont pour l'instant importés en Chine, de les produire sur place. Et or, les Américains estiment que c'est pas suffisant parce qu'il faut que les Chinois reviennent là-dessus et arrêtent d'imposer aux entreprises étrangères qui s'installent en Chine ce qu'ils estiment être un transfert forcé des technologies. C'est-à-dire quand une entreprise étrangère américaine, en l'occurrence, vient en Chine, elle doit s'associer avec une entreprise locale et le deal, c'est qu'il y a un partage des technologies.
Bien sûr.
Et les Américains estiment à des milliards de dollars, en fait, ce que ça leur coûte chaque année.
Et pour les Américains, c'est du vol de propriété intellectuelle.
C'est du vol de propriété intellectuelle. C'est un énorme manque à gagner et il faut que les Chinois reviennent sur cette politique-là pour donner satisfaction à la partie américaine. Or, c'est pas le cas pour l'instant. Ouais. Donc, les Américains sont pas contents.
Sont pas contents. Donc, concrètement, à partir du 6 juillet, si j'ai bien compris, il y aura plusieurs centaines de produits chinois qui seront surtaxés.
Voilà, et les Chinois ont répliqué en disant que dans ce cas-là, on va également taxer les automobiles et le soja américain, et ça peut faire très mal aux Américains, donc aux fermiers, notamment américains, qui font partie de l'électorat.
Qui ont largement voté Donald pour Donald Trump, Trump effectivement. Ignace, vous avez une autre question ?
Oui, j'ai ma deuxième question qui demande comment expliquer cette politique des États-Unis de promouvoir les industries traditionnelles alors que le pays est aujourd'hui principalement tertiarisé et les industries délocalisées.
Enfin, tertialisé, je ne connais pas bien l'économie américaine à Abla Jounaïdi, mais enfin, on parlait à l'instant du soja, de l'agriculture. C'est un secteur extrêmement important, électoralement parlant, évidemment, pour Donald Trump, mais pour l'économie américaine.
Oui, oui, c'est un grand pays agricole, les États-Unis, évidemment, et aussi un grand pays industriel encore, même si l'industrie manufacturière représente 12% du PIB américain. Je pense qu'Ignace fait référence à l'industrie américaine. et à l'agriculture, effectivement. Et comment on peut comprendre la politique protectionniste de Trump? On l'a souvent dit, hein, c'est il s'adresse à son électorat.
Bien sûr.
Il parle aux Américains.
Il y aura des élections là, voilà, dans quelques mois, au mois de novembre.
En point de mire, évidemment, c'est les élections de mi-mandat de novembre. Et en fin de compte, Trump a fait des promesses à son électorat, aux ouvriers de la Rust Belt, la ceinture de la rouille, ces États, Michigan, Pennsylvanie, qui ont vu des usines fermées, donc qui avaient envie d'entendre ce message de promesse de remettre l'industrie américaine sur pied. Donc il aura fait des promesses et finalement, quand il s'attaque à la Chine et un peu au monde entier avec les taxes sur l'acier et l'aluminium, il parle à cet électorat. Et pareil pour les fermiers américains. Sauf que ça va finir par... Si la Chine applique les taxes, notamment sur le soja,
c'est pas encore le cas. Ce sera dur pour les producteurs de soja américains.
Oui, alors rien que pour l'État de l'Iowa, j'ai un chiffre qui est l'un des principaux producteurs de soja. On estime à 624 millions de dollars le manque à gagner pour cette année si elle s'applique.
C'est l'effet boomerang, en fait.
Exactement, parce que la Chine, elle regarde aussi les États qui ont voté pour Trump. Elle peut aussi viser certains produits plus que d'autres.
Mais évidemment. Évidemment,
donc c'est une vraie guerre.
On scrute l'électorat américain et on voit là où ça peut faire le plus mal, pour dire clairement les choses. Abla Jounaïdi, merci.
Merci à vous.
Merci Ignace. A-t-on répondu à vos questions?
Mais c'est très bien. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Merci à vous de votre fidélité. Continuez à nous écouter. 10h22, ici à Paris, on continue à répondre à vos questions. 33 9 693 693 70. On va parler maintenant de la politique française et notamment de ce divorce au sein du parti Les Républicains. Anne Souhaitement, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service politique de RFI. Et nous avons une question qui nous vient de Bujumbura, donc au Burundi. Eugène, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Le président du Parti des Républicains, Laurent Wauquiez, a récemment limogé sa vice-présidente Virginie Calmel. Le torchon brûlé depuis quelques semaines. Est-ce qu'en critiquant ouvertement son chef, est-elle seule ou elle a des soutiens au sein du parti?
Alors,
ces dissensions peuvent-elles nuire au parti ou pour les prochaines européennes de 2019?
Alors, Anne Souhaitement, Laurent Wauquiez n'a pas du tout apprécié donc l'entretien de sa numéro 2 accordé aux Parisiens, entretien dans lequel elle l'accuse. Il est patron du parti, il n'en fait qu'à sa tête, il ne défend que sa ligne, une ligne qu'elle...
Elle critique aussi la méthode.
La méthode.
La manière de gouverner très seule.
Très autoritaire et très seule, effectivement. En critiquant Laurent Wauquiez, est-ce que Virginie Calmel n'a pas un peu surestimé son poids au sein du parti politique? Pour répondre à la question de Jeanne qui nous dit, est-ce qu'elle bénéficie des soutiens?
Alors, dans l'équipe dirigeante du parti, autour de Laurent Wauquiez, non, ça c'est très clair. Lors d'une réunion, parce qu'en fait tout n'a pas commencé avec l'interview de dimanche, ça avait déjà commencé depuis quelques semaines, et puis il y a eu une réunion un peu secrète mardi, en tout cas en privé. Là, elle a bénéficié officiellement d'absolument aucun soutien. Elle était très isolée. Officieusement, c'est un peu plus compliqué. Il y a notamment l'un des cadres qui, en off, m'a expliqué que sur la ligne politique du parti, il soutenait Laurent Wauquiez, mais sur la méthode, c'est peut-être là où il y a quelque chose d'intéressant. Effectivement, Virginie Calmes avait peut-être un petit peu raison de dire que Laurent Wauquiez gouvernait très seul. Pas beaucoup de soutien donc autour de Laurent Wauquiez dans le parti, en tout cas dans l'équipe dirigeante. Après, dans les gros pontes du parti qui aujourd'hui sont pas aux manettes, là, elle a des soutiens. Alors, il y a par exemple Valérie Pécresse, vous le savez, Juan. Oui. Elle organise une sorte de contrepartie à l'intérieur même du parti. Et elle a réitéré ses critiques en expliquant que Laurent Wauquiez rétrécissait la droite. C'est le verbe qu'elle utilise absolument à chaque fois. Il y a aussi un soutien direct de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est très important parce que les militants, les électeurs de droite l'adorent. Et il a répondu subrepticement à une caméra de télévision le lundi, donc le lendemain de la décision, en expliquant qu'effectivement, il n'y avait que le rassemblement qui pouvait faire avancer les choses, comprenez les divisions, il vaut mieux éviter. Et puis il y a effectivement Alain Juppé,
forcément,
dont Virginie Calmel est une proche, qui lui a déclaré, alors je vous lis la phrase, parce que c'est un soutien direct, mais c'est quand même assez direct: la loyauté, ce n'est pas l'alignement sur une position unique, donc il parle là de Virginie Calmel, c'est conciliable avec l'expression d'une diversité, c'est la philosophie de ce qu'a été le RPR et l'UMP, c'est la philosophie du rassemblement, donc voilà, c'est assez clair pour Laurent Wauquiez.
Moi, ce que j'ai retenu du tout et des réactions d'Alain Juppé, c'est qu'il a salué le courage.
Oui, alors en fait, ce tweet a été analysé de manière assez différente selon les spécialistes politiques. Certains y voient un soutien très clair, d'autres un peu d'ironie, parce que dans le camp d'Alain Juppé, on avait un peu grincé des dents quand Virginie Calmels avait accepté la main tendue il y a 6 mois de Laurent Wauquiez.
En deux mots, le temps passe très vite, Anne Souhaitement, est-ce que ce divorce et dissension au sein des Républicains peut avoir des répercussions sur les européennes de l'année prochaine?
Alors évidemment, aborder un scrutin aussi important que les européennes divisées, c'est plutôt mauvais. Après, ce qui est sûr, c'est que ces divisions, en fait, elles ne sont pas nouvelles. Cet épisode Calmels, il a un peu exacerbé la différence entre deux lignes. Une ligne européiste, Valérie Pécresse, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Une ligne plus eurosceptique, ça c'est plus la tendance de Laurent Wauquiez, qu'il avait décrite dans un livre, qui va devoir trancher, rendez-vous le 30 juin. Il y a un Conseil national sur la question, mais dans une interview au Figaro, il a déjà donné quelques indices et manifestement, c'est plutôt la ligne eurosceptique qui tient la corde.
On suivra ça, notamment avec vous, Anne Souhaitement, du service politique de RFI. Bonne journée.
Merci,
aussi. Et on remercie Eugène, évidemment, qui nous appelait de Bujumbura. Il nous reste 4 minutes, nous avons le temps d'accueillir Philippe. Bonjour.
Bonjour Moine, bonjour aux auditeurs.
Alors vous avez entendu de nos différents journaux la dégradation de la situation au Nicaragua. Le pays est secoué par une vague de contestation qui a fait tout de même plus de 150 morts en quelques semaines. Et ça a suscité chez vous plusieurs questions, Philippe.
Tout à fait. Vous savez que l'Église épiscopale a proposé un dialogue entre le gouvernement et l'opposition, qui d'ailleurs avait appelé à la grève générale et au départ du président de la République. Oui. Alors, l'Église va-t-elle garder une posture de médiatrice ou bien va-t-elle imposer des solutions? Et puis l'opposition pourrait-elle accorder des concessions pour que la crise soit résolue?
Alors, Gilles Bataillon est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, directeur de recherche, je vous présente tout de même, Gilles Bataillon, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste du Nicaragua. L'opposition, effectivement, réclame notamment le départ du président Ortega. Et on voit, comme c'est le cas dans certains pays africains, je comprends que ce thème intéresse nos auditeurs, surtout ceux qui nous écoutent en Afrique, on a vu les évêques catholiques se poser en médiateur. Quelle est leur marge de manœuvre?
Alors, leur marge de manœuvre est à la fois très réduite et très grande. Quand Ortega est revenu au pouvoir en 2011, en 2006, dans des élections qu'il a gagnées, si j'ose dire, à la loyale, il a passé un pacte avec les secteurs les plus conservateurs de l'Église en lançant une loi interdisant complètement l'avortement thérapeutique qui était autrefois possible au Nicaragua. Et là, aujourd'hui, l'Église s'est désolidarisée de Ortega à partir de 2011, d'autant que le cardinal de Managua, qui est son principal allié, est parti à la retraite. Et donc l'Église est devenue, devant la faillite des partis politiques qui avaient les accords les plus douteux et des pratiques de corruption invraisemblables, en particulier les libéraux, comme Arnoldo Alemán qui avait fait des pactes invraisemblables avec Ortega, l'Église est redevenue, d'une certaine façon, une espèce de garante de la morale publique. Mmh. Et même si le pays compte beaucoup d'évangélistes, tout un certain nombre de gens disent « c'est l'Église qui doit servir de médiatrice dans une cité divisée au bord de la guerre ».
Ouais. Et en quelques mots, Gilles Bataillon, que proposent concrètement les évêques catholiques?
Les évêques catholiques proposent à la fois la mise en place d'une commission d'enquête sur les violences qui ont eu lieu au Nicaragua, qui sont extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des tirs sur des manifestants par des groupes paramilitaires qui ressemblent au tonton Macoute, par la police, et elle veut aussi que Ortega accepte des élections anticipées pour redéfinir qui gouverne le pays et disons des élections qui seraient sous contrôle international ou avec des organismes électoraux dépurés de tous les hommes de paille qui ont organisé la fraude pour Ortega en 2011 et en 2016.
Et pour l'instant, en 10 secondes, Gilles Bataillon, les évêques ont-ils obtenu gain de cause sur un des différents points, une des différentes revendications?
Ils n'ont obtenu aucun gain de cause sur ces différents points, sauf la venue d'une commission d'investigation de l'Organisation des États américains. Mais pour le reste, Ortega joue la montre contre eux, l'épreuve de force.
Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé, Gilles Bataillon, après les questions de Philippe, qui nous appelait du Togo. Bientôt 10h30 à Paris, l'heure du journal, et on revient tout de suite après pour dresser un premier bilan de cette Coupe du Monde de football qui se déroule en Russie. On reviendra évidemment sur les prestations plutôt moyennes des équipes africaines et les prestations poussées des grands favoris.